Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Émission On en jase du mercredi 15 octobre. Émission spéciale avec un Jeff Fortin tout seul dans le studio puis une Antonine Iaccarini qui est à Montréal, branchée dans notre studio de Montréal. D'ailleurs, ça me permet de vous rappeler que le 2 novembre prochain, spécial élection municipale, 19h30, sur les ondes de Boulevard et du 99.5 Montréal, en simultané avec notre collègue Alex Laramé. Comme on l'avait fait pour les élections fédérales, qui va nous parler des résultats dans la grande région de Montréal, des excellentes analyses d'Antonine Iaccarini, Farnell Morisset, Max Larouche aux résultats, Mathias Turcotte sur le terrain, sûrement Pascal CV, qui revient demain, soit dit en passant, de son trip au Kilimanjaro. On va faire le tour de cette expérience splendide. Midi 1 à l'heure actuelle sur Québec, 11 degrés avec 30% de possibilité d'averse. Demain, c'est 12 degrés alternance de soleil et nuages et 13 degrés ensoleillés pour vendredi. On va immédiatement la rejoindre en direct de Montréal. Antonine Iaccarini, comment vas-tu?
Ça va bien. Toi, Jeff?
Hey, ça va super bien. Puis, on a des beaux studios à Montréal, tu me disais?
Oui, ça a bien de l'allure, honnêtement. Des installations qui ont bien du charme industriel. J'aime bien, mais tu sais que je préfère Québec.
Ben oui, c'est clair. Québec est tellement une belle ville. Ça n'a aucun sens. Je l'ai encore plus vu en fin de semaine quand j'étais dans le Vieux-Québec avec les croisières. J'ai vu le Queen Mary quitter le port de Québec. Un spectacle tout simplement incroyable.
Oui, il n'y a rien qui bat Québec.
Non, il n'y a rien qui bat Québec. Anto, on va se lancer directement dans le...
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
On n'a pas le choix de se lancer tout de suite dans le caucus Iaccarini parce qu'Anto, si on dit que Québec est une belle ville, ça brasse en politique municipale, pas à peu près à Québec. Coup de théâtre hier. Est-ce que respect citoyen est légal ou illégal? On est entré en discussion avec le Parti Leadership Québec. On a regardé ce que Sam Hamad aimerait faire s'il était plus le chef, puis que c'était Stéphane Lachance, le chef de ces deux partis-là. Et là, c'est la grande question qu'on se pose. Est-ce que c'est légal ou illégal? On commence avec Marc Roussin, le directeur de campagne de respect citoyen en ondes à Radio-Canada. Hier en après-midi, qui explique quelle a été la démarche de respect citoyen.
Alors nous, ce qui était important, c'était de mettre toutes les options sur la table, faire une ultime tentative, puis c'est aussi simple que ça.
Mais si je comprends bien, vous étiez prêt à lui offrir le poste de directeur général de la Ville de Québec, mais ça, c'est en rupture avec les règles électorales, M. Roussin, ça.
On était prêt à offrir n'importe quoi qui est réalisable, qui est faisable, qui est légal. Aussi simple que ça. Alors, name it, en bon français, excusez-moi l'expression.
Mais on l'a vu à Saguenay, donc la mairesse qui a été condamnée pour des propos comme ceux-là. Donc, c'est interdit de faire ça, M. Roussin?
Ben oui et non. C'est interdit parce que la mairesse, elle était sortante, elle était élue, elle était en poste. Nous, ce qu'on tente de faire, c'est une alliance. Alors, présentement, on n'est pas élu. On ne peut pas offrir de job. Ce qu'on peut faire, c'est on peut dire, écoute, dis-moi ce que ça prend. Si c'est faisable, je vais m'assurer d'être capable de te le donner, si on est capable. Alors ça, c'est totalement légal. Okay. On n'est pas élu. Alors, comme on n'est pas élu, on ne peut pas offrir.
Antonine Iaccarini, t'en penses quoi? C'est-tu vraiment légal d'approcher? Parce que là, on fait la différence entre Saguenay. Saguenay, la mairesse Julie Dufour a été reconnue coupable, elle, durant la course à la mairie 2021, alors qu'elle sortait d'un mandat de conseillère municipale, elle a dit au monde, « Hey, écoute, tasse-toi de la course, puis je vais t'offrir tel job. » Là, du côté de respect citoyen, on n'a pas dit textuellement à Sam Hamad, « On va te mettre des jeux de la ville. » Mais on y a quand même dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir, mon Sam, pour quitter justement la campagne électorale?
Écoute, on est dans un enjeu éthique. On n'est pas des avocats, ni toi ni moi. C'est illégal, selon la loi électorale, pour un candidat à la mairie ou que ce soit un candidat ou comme conseiller municipal, de promettre un poste dans l'administration municipale en échange d'un retrait de la course électorale. Okay? C'est quelque chose qui flirte avec la corruption. Même. Et puis, le cas de Mme Dufour à Saguenay est patent. Là. Elle a été reconnue coupable. Elle fait appel, mais elle a reçu une amende et elle risque de perdre son droit de se présenter. Si elle n'avait pas fait appel, elle ne serait pas candidate aux élections municipales mm-hmm. présentement. Donc, le DGE a le pouvoir de déclencher une enquête sur cette situation-là. On ne peut pas présumer de la fin de l'enquête, là, évidemment. Là, on a des détails aussi qui nous sortent par médias. Il a dit ça, il m'a répondu ça. On n'a pas nécessairement là, tout... on n'était pas dans la pièce, bref, quand ça s'est passé. Mais ça regarde très mal, là.
C'est ton opinion, c'est que ça regarde très mal. Et d'ailleurs, on a des excellents journalistes au niveau de la couverture des élections municipales et de la politique municipale en général à Québec. Une d'elles est Émilie Pelletier du Soleil. C'est elle la première à avoir sorti la nouvelle sur le fait que Marc Roussin avait justement tâté le pouls auprès de Leadership Québec. Elle a parlé avec une représentante du DGE et voici ce qu'elle nous a résumé ce matin dans Marceau le matin.
Donc, lors de mes discussions hier avec une représentante du directeur général des élections du Québec, ce qu'on en a déduit, c'est que le simple fait d'avoir des tractations en ce sens et de tenter de convaincre et de dissuader une personne de retirer sa candidature ou de ne pas la présenter, en ce sens-là, c'est illégal.
À 12h30, on aura François-David Bernier, avocat spécialiste, qui va venir justement nous entretenir, à savoir, puis on va lui poser la question, est-ce illégal ou non au sens de la loi? Mais là, Antonine, quand on parle de l'entonnoir qui se resserre avec ce qu'Émilie nous rapporte de sa discussion avec une représentante du DGE, ça augure vraiment pas bien dans le futur là, pour le Parti politique Respect citoyen.
Non, ils sont dans l'eau chaude. Stéphane Lachance, lui, dit que c'est une tempête dans un verre d'eau. C'est pas une tempête dans un verre d'eau, surtout en pleine campagne électorale où on n'aura pas nécessairement les conclusions d'une future, peut-être, enquête du DGE. Ce qu'on a, c'est la situation qui nous est rapportée, qui est quand même crédible, et on a leur réaction à ce parti politique qui, finalement, essaie de minimiser la situation. Donc, ça aussi, ça envoie un message. Je dis, ben non, c'est pas grave, là, parce qu'on n'était pas, pas encore candidat. C'est pas la même situation qu'à Saguenay. Mm-hmm. Moi, je trouve que ce que ça vient dire aux gens, c'est le niveau d'éthique de ces personnes-là. Parce que je veux quand même dire, là, le poste de directeur général d'une municipalité grande comme Québec, c'est un poste qui est stratégique. C'est comme... Je fais attention à ce que je dis, mais...
J'aime tellement où tu vas.
C'est d'offrir un avantage. Bien, tu le sais où est-ce que je m'en vais, mais c'est d'offrir un avantage important. Et par-dessus le marché, je veux dire qu'en ce moment, le poste est occupé par quelqu'un de compétent. Et là, on fait des promesses en échange, en fait, d'un avantage politique de faire en sorte qu'un adversaire politique va se tasser. Donc, on n'est pas en train de choisir une personne dans ce poste stratégique-là selon ses compétences. On est en train de choisir une personne selon notre intérêt politique. Ça envoie un bien mauvais message dans une campagne municipale.
Ouais,
j'ai envie de te dire aussi, Jeff, que pour Bruno Marchand, en ce moment, là, c'est du pain béni, là, tout ça, là. Pendant que ça se coltaille avec les deux autres partis anti-tramway, lui, je veux dire, il est assis dans son bureau, puis il doit être mort de rire présentement.
Il a fait une conférence de presse ce matin pour une annonce et tractation entre Lachance et Hamad du copinage entre petits amis et les invite à rendre publiques les discussions qu'ils ont eues. Donc, en effet, Bruno Marchand peut juste tirer avantage de la situation, là.
Bien, absolument. Le seul désavantage que je vois présentement pour Bruno Marchand, c'est que évidemment on parle d'affaires croustillantes, puis pendant ce temps-là, on ne parle pas nécessairement des annonces qui sont faites par les différents partis politiques. C'est pas toujours au service du citoyen. Par contre, c'est pas vrai que c'est juste un détail, que c'est juste une tempête dans un verre d'eau, parce que oui, dans une campagne électorale, les propositions, c'est important, la vision qu'on amène, mais aussi ton éthique de travail, la manière, l'approche avec laquelle tu vas travailler, bien ça aussi, les citoyens vont être intéressés à en connaître davantage. Puis là, en ce moment, cette espèce de saga entre Sam Hamad et Stéphane Lachance, bien, c'est en train de construire aussi une image sur cette approche-là de ces deux personnes-là qui souhaiteraient, en fait, qu'ils disent à l'autre de se tasser de leur chemin, là, puis que c'est à l'autre de finalement s'en aller, et d'un des partis qui offre des postes stratégiques en échange du retrait de l'autre personne. Je m'excuse, c'est pas un détail, c'est pas quelque chose qui devrait être évacué de la campagne électorale. Il faut en parler, puis quand j'entends le parti essayer de minimiser les gestes, ben, ça envoie un bien mauvais message.
Non, exactement. Puis, tu fais bien de le mentionner. C'est vraiment pas un détail. D'ailleurs, deux choses par rapport à ça, par rapport à ton propos qui correspond exactement à mon schéma de pensée. La chose concernant le DG de la ville, Luc Monti, fait un travail exceptionnel. Il a pris le cadre financier de la Ville de Québec. Il est en train de réduire la dette exactement dans les cibles dont ça avait été ciblé par Régis Labeaume. Il a même fait plus rapidement à l'heure actuelle. Il gère de main de maître le budget de la Ville de Québec. Puis là, je sais que quand les gens, je dis ça des fois, il y a des gens qui font « Ben voyons donc, il y a du gras à couper à la Ville de Québec. » À la Ville de Québec, on a la note 3A de la firme indépendante Moody concernant nos finances publiques. Donc, il fait un travail impeccable. Fait qu'en quoi je vais remplacer Luc Monti si je suis Stéphane Lachance qui arrive à la mairie de Québec?
Mais c'est ça, c'est pas gagnant. Puis ça rejoint quelque chose que tu amènes souvent quand on parle des attaques envers l'administration actuelle. Puis tu dis, on n'attaque pas sur les bonnes choses. Bien, s'attaquer à ce poste-là puis dire, on va tasser Luc Monti, honnêtement, c'est pas gagnant. Effectivement, c'est une des choses qui va bien en ce moment dans la municipalité avec cette agence Moody's qui a donné une bonne note. C'est inattaquable.
Exactement.
Donc, tout ça envoie tellement un mauvais message présentement. Je suis pas certaine qu'il va y avoir un autre sondage d'ici d'ici le scrutin.
Oui, normalement, Somme le Soleil devrait en faire un autre.
Bon, ben moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir donné, cette espèce là, de discussion dans l'espace public entre sa maman et Stéphane Lachance, avec tous les détails qui sortent par-ci, par-là, entourant ces discussions-là. J'ai pas l'impression que quand tu es citoyen et que tu suis ça là, à peu près, là, en écoutant les nouvelles par-ci, par-là, que tu trouves que c'est très glorieux ou très gagnant. Et puis en plus, ça met encore plus l'emphase sur la division du vote entre les deux. Parce que tu sais, le but, dans le fond, de Stéphane Lachance et de sa maman, c'est de se positionner comme étant le challenger de Bruno Marchand. Mm-hmm. Mais présentement, ça met juste l'emphase sur le fait qu'ils se challengent l'un l'autre. Puis Bruno Marchand est comme sur une autoroute de l'autre côté. Je vous dis pas que ça va être facile, qu'il va gagner facilement ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que, par exemple, cette semaine, je trouve qu'il a le champ libre pendant qu'on parle juste de c'est qui a le plus gros égo entre les deux, puis c'est lequel qui va se laisser la place à l'autre dans les opposants de Bruno Marchand.
Hey, clairement, 418-971-1021, vous étiez des gens qui allaient voter pour Respect citoyen ou pour Sam Hamad. Est-ce que vous êtes redevenus dans le camp des indécis ou est-ce que vous persistez et signez avec ce qui se produit à l'heure actuelle? Antonine aussi, est-ce que c'est cette fameuse folie anti-tramway. Puis là, j'ai pris le terme folie, là, c'est peut-être pas le bon terme, là. Ça serait plus cette emphase-là anti-tramway qui a amené Respect citoyen à faire l'impensable. Et je m'explique. T'sais, normalement, là, dans une campagne électorale, c'est la démocratie qui a plein de partis politiques qui se présentent. Soit le meilleur, puis bolet. Pourquoi tu essaies de faire une alliance?
Ouais, c'est sûr que quand on regarde le dernier sondage, tu comprends pourquoi ils veulent faire une alliance. C'est qu'il y a vraiment la chance de battre Bruno Marchand. Puis c'est vrai que le tramway, c'est un dossier important puis que c'est probablement celui sur lequel on met de l'emphase. Et il y a toutes sortes de différences aussi entre le programme de Respect citoyen et celui de Leadership.
Ben oui. Tu sais, quand on parle du tramway ici, là, on a une auditrice ou un auditeur qui nous écrit « Hey, moi, j'aurais aimé ça qu'on fasse une élection référendaire sur le tramway. » Oui, parfait. En effet, ça pouvait n'être une s'il y aurait eu seulement un candidat contre Bruno Marchand. Là, il y en a deux. Est-ce qu'on peut le voir de cette façon-là? J'ai pas vraiment d'opinion là-dessus.
Non, puis c'est vrai, quand on va regarder les résultats le 2 novembre prochain, si on voit que plus de votes additionnés des partis anti-tramway, ça va quand même envoyer un message qui va être complexe pour le maire. Bon, oui. Pour l'instant, sa priorité à Bruno Marchand, c'est de se faire élire. Après, tu gères les problèmes par la suite, évidemment. Mais c'est vrai que c'est un projet sur lequel on met tellement d'emphase, un dossier sur lequel on met tellement d'emphase dans cette campagne électorale. On l'a vu pendant les débats aussi, là, tu sais, que ça prenait limite un peu trop de place puis que ça faisait de l'ombrage au reste. Mais c'est pas suffisant pour que deux équipes mettre de côté tout le reste de leur positionnement qui sont différents. D'ailleurs, tu sais, sa maman, il disait, moi, je regarde le programme de Stéphane Lachance, puis je me dis, c'est irréaliste ce qu'il est en train de proposer. Fait que j'adhère pas à ça. Puis de son côté, Stéphane Lachance, il a toute une plateforme à laquelle sa maman n'adhère pas et à laquelle il tient. Là. Il n'y a pas juste le tramway. Donc, est-ce que c'est vraiment suffisant? Puis finalement, on perd des journées pour ces deux candidats-là à parler de pourquoi puis de comment, puis qu'on aurait-tu dû faire une fusion, puis peut-être que mais c'est l'autre qui devrait. Puis pendant ce temps-là, ben on place pas les autres messages. On parle de nous, on parle pas des citoyens pendant ce temps-là. Alors ça, c'est une erreur. Souvent, les partis qui sont dans des situations difficiles, ils parlent d'eux-mêmes. Puis ça, c'est pas quelque chose qui est souhaitable dans une campagne électorale, parce que les gens veulent savoir qu'est-ce que vous allez faire pour moi.
Oui. T'as raison. Qu'est-ce que vous allez faire de différent aussi? En effet, je termine cette discussion avec justement un extrait de Stéphane Lachance avec nous ce matin, dans Marceau le matin.
Stéphane, mais ce qu'on a fait, il n'y a rien d'illégal dans ce qu'on a fait. On a discuté, les deux directeurs ont discuté dans une rencontre privée, entre deux hommes, vocalement, il n'y a rien, il n'y a pas eu d'offre écrite, il n'y a eu rien. C'est une rencontre où on a discuté, on a parlé de différents points, puis ça a chopé, on a fermé le livre, puis c'est réglé. Donc, il n'y a rien d'illégal dans tout ça.
Antonine, tu es une spécialiste en communication. Est-ce que tu aurais prôné un discours comme ça de la part de Stéphane Lachance ou tu aurais fait les choses différemment?
Bien, c'est que en communication politique, tu as beau mettre du rouge à lèvres à un cochon, ça reste un cochon. Okay? Quand sur le fond des choses, c'est pas bon, peu importe comment tu vas le communiquer, ce sera pas bon. Je m'excuse, mais tout ce qui concerne d'aller contre la loi électorale et ce qui concerne, je vais aller un peu plus loin, la corruption en général, tu n'as pas besoin de mettre les choses par écrit pour que ce soit illégal. J'ai très hâte d'entendre Maître Bernier nous entretenir là-dessus. Ça ne change rien. Mais là, ce qui se passe, c'est que Stéphane Lachance est dans une situation où, idéalement, il faudrait que tu dises, écoutez, effectivement, c'est pas correct. Puis, il y a eu des discussions, puis je suis pas d'accord avec ça, puis j'aimerais ça qu'on passe à autre chose, puis que ça n'arrivera pas, tu sais. Mais il faut reconnaître que c'est pas correct. Mais là, il peut pas faire ça en pleine campagne électorale, puis surtout, il pourrait pas garder M. Roussin au sein de son équipe dans cette situation-là. Donc, il fait le choix, qui n'est vraiment pas l'idéal non plus, mais il n'y en a pas de choix idéal, d'essayer de minimiser la situation puis de gagner du temps parce qu'il n'y aura pas de conclusion. Dans le fond, ce qu'on pourrait apprendre d'ici le scrutin, c'est que les DGE déclenchent une enquête. Des fois, puis je ne suis pas dans la tête de cette institution qui est vraiment indépendante, mais ça peut arriver qu'on décide d'attendre après une campagne électorale aussi pour déclencher une enquête, pour ne pas s'ingérer dans une campagne électorale. Mais ça n'arrive pas tout le temps, parce que la commissaire, la commissaire à l'éthique à l'Assemblée nationale, elle, à part ses enquêtes, peu importe qu'est-ce qui se passe, ça se passe pendant une élection partielle, c'est tant pis, c'est comme ça. Et c'est bien correct. Mais je ne sais pas si le DGE pourra annoncer, par exemple, qu'on déclenche une enquête pendant la campagne électorale. Donc, le jeu de Stéphane Lachance, c'est de dire non, c'est pas grave, puis de marteler ce message-là en attendant que le scrutin arrive, en espérant que les choses se tassent. Mais les opposants politiques ne vont pas le laisser s'enfuir avec ce ballon-là. Là. Ils vont l'attaquer constamment jusqu'à la fin de la campagne et il risque d'avoir un coup politique à tout ça.
Bien, c'est clair. Il y a débat d'ailleurs à l'Université Laval demain soir. Donc, je m'attends à des attaques là-dessus là, de la part de Bruno Marchand et Claude Villeneuve. Il n'y a pas de doute là-dessus. Continuez à nous texter 418-971-1021. Est-ce que si vous votiez respect citoyen ou même je vais mettre Leadership Québec là-dedans, même si la proposition est plus venue de respect citoyen, votre vote a-t-il changé? Je vous dirais que ce matin, il y a eu beaucoup de messages plus négatifs à l'endroit de Stéphane Lachance. Ce midi, présentement, c'est plus posé. Alors, est-ce que justement le temps va arranger les choses pour respect citoyen? On verra bien. Antonine, je te fais écouter François Legault, qui était tellement fier pète il y a de cela quelques mois.
On va continuer de ne pas augmenter le tarif résidentiel de plus que 3 %. On va pouvoir décarboner le Québec pour pouvoir créer des bons emplois bien payés avec des entreprises de chez nous. Je suis content d'être à St. John's, à Terre-Neuve, pour annoncer une immense entente avec Terre-Neuve pour avoir de l'électricité pour les 50 prochaines années. On augmente de 50 % la capacité qu'on recevait déjà de Terre-Neuve à un prix très bas. Là, on parle de 6 cents. Ça nous fait économiser à peu près 200 milliards si on compare avec les autres projets qu'on a au Québec. Donc, c'est une grande journée pour le Québec. C'est une entente historique qui va permettre aux prochaines générations, bien, un, de compter sur de l'électricité à un prix qui est très bas. Donc, on va continuer de ne pas augmenter le tarif résidentiel de plus que 3 %. On va pouvoir décarboner le Québec. On va pouvoir créer des bons emplois bien payés avec des entreprises de chez nous, dans l'économie verte. Là. Donc, je suis vraiment très content de cette entente-là.
La petite musique, Antonine.
Hey, bravo.
On est content, on fait un bon montage, la vie est belle, on a une bonne entente, on y va. On va vous garder ça à 3 % les amis, au résidentiel, les augmentations d'électricité, même si on a un projet de développement de 150 milliards. Mais là, il y a une élection à Terre-Neuve, puis c'est le gouvernement conservateur qui est entré. Et là, ça peut remettre les choses en question parce que Tony Wakeman, le chef conservateur et le nouveau premier ministre de Terre-Neuve, il est majoritaire, une courte majorité à 21 députés. Il y en a 40 là-bas. Et l'entente de 225 milliards sur 50 ans sera révisée selon lui. Il veut faire appel à des firmes indépendantes. Est-ce qu'on est dans le trouble au Québec avec notre électricité?
Bon, écoute, le gouvernement demeure confiant parce que cette entente de principe là, qui a été signée il y a quelques mois entre l'ancien premier ministre Andrew Furey et M. Legault est remise en question par les conservateurs. Et c'est drôle puisque tu disais, ils ont gagné avec 21 sièges une élection. Ouais. C'est fou, hein? Comment c'est une petite assemblée. Puis on
ben oui.
Pas tout le temps. En fait, on connaît très peu Terre-Neuve. C'est rare hein, qu'on
parle
de Terre-Neuve.
Mais tu as tellement raison.
Les jeunes, on faisait des blagues de Newfie, là, mais tu sais, je veux dire, je savais même pas que les Newfies, c'était les gens de Terre-Neuve dans l'imaginaire.
Mais on coule pas, moi aussi.
Donc, on les connaît très peu. Puis c'est pas la politique de Terre-Neuve, Labrador, on la suit très peu. Mais avec cette entente, évidemment, là, hier, on était plusieurs à suivre ça avec attention parce que c'est une entente qui est importante. Et je pense qu'on sous-estime beaucoup de notre Québec la colère, l'amertume, la frustration des gens de Terre-Neuve-Labrador concernant l'ancien deal qui est toujours en vigueur présentement de Churchill Falls. Ils ont l'impression de s'être fait flouer pendant des années, de s'être fait imposer ça. Et c'est ce qui a permis aux conservateurs de Tony Wakeham de surfer sur cette colère-là et de promettre qu'on va, comme tu disais, faire une autre analyse, une analyse indépendante de cette entente-là, et qu'on pourrait même soumettre l'entente à un référendum. Hey, c'est drôle, hein? Il y a comme trois gros référendums là, sur le radar au Canada. Là. Il y a
vraiment.
Il y a le Québec.
Et là, il y a l'entente et... Churchill Falls.
Hey, on est là, dans le référendum friendly,
c'est fou.
Là, en ce moment.
Parce que là, François Legault écrit il y a de cela 30 minutes sur son compte X. Félicitations à Tony Wakeman pour son élection. Je suis convaincu que l'entente de principe sur le développement énergétique du Labrador est bénéfique tant pour Terre-Neuve et Labrador que pour le Québec. Donc, il tente déjà là, de tisser des ponts là, avec le nouveau premier ministre là-bas.
Il reste positif. Et c'est la chose à faire, je pense, politiquement, parce que, de toute façon, sur le fond des choses, si on regarde froidement la situation à Terre-Neuve-Labrador, tu te demandes sérieusement pourquoi ils cracheraient sur une entente comme ça, qui est une entente qui est beaucoup mieux que celle qui prévalait précédemment, qu'on considère qui est gagnant-gagnant, qui avait été saluée. Là, quand ça a été annoncé, cette entente-là, là, la plupart des experts en énergie disaient que c'est un bon deal. Ils vont aller chercher beaucoup plus d'argent avec ça. Et de notre côté, on a besoin de cette énergie-là dans le plan stratégique d'Hydro-Québec et aussi la vision économique du gouvernement de manière générale. On sait que Hydro-Québec puis l'énergie, c'est au centre de cette vision économique du gouvernement. Et on sait à quel point François Legault a besoin d'avoir des bons coups, des gains, des bonnes nouvelles et que ça fait partie du legs qu'il veut laisser. Donc, est-ce que finalement, à Terre-Neuve, ça va avoir été surtout du brassage politique puis dans le fond, ça risque d'atterrir de manière assez satisfaisante pour le Québec? C'est possible, mais c'est sûr qu'il y a de l'ombre au tableau. Il y a des rumeurs aussi qui disent que le fédéral pourrait s'en mêler à un moment donné parce que dans cette nouvelle entente-là, on veut développer aussi l'énergie à Gull Islands et que c'est considéré comme un projet d'intérêt national là, du côté du fédéral. Donc, ça serait possible que le gouvernement fédéral dise « Bon, écoutez, Terre-Neuve, on va vous donner un petit nanane supplémentaire. Mm-hmm. » Mais vous nous signez ça, s'il vous plaît, là, puis on passe à un autre appel.
Ben, Crémanteau, est-ce que le Canada va venir sauver le Québec dans son développement énergétique?
Ben peut-être, parce qu'on a des intérêts concomitants en ce moment.
Oui, c'est
avec
ça, exactement.
Ce n'est pas pour rien, en passant, que François Legault, il ne l'attaque pas jamais, là, M. Carney.
Non, en effet.
L'aimer. Il s'accroche après la locomotive fédérale en ce moment parce mm-hmm. qu'il veut profiter du fait qu'on veut pousser des grands projets, on veut faire du développement économique, diversifier les marchés. Bien, c'est tous des intérêts qu'on a en commun en ce moment avec Ottawa. Donc, on va voir si M. Carney va finir par s'en mêler. Mais c'est vrai qu'un référendum, ce serait, je veux dire, ça serait une grosse affaire là, quand même pour, avec les 500 000 personnes qui habitent à Terre-Neuve, d'être consultées sur cette entente-là qui est vraiment avantageuse pour eux. Puis, on connaît peu Terre-Neuve, hein, j'en parlais tantôt. Les finances de Terre-Neuve, c'est pas mal désastreux. Là. C'est,
okay.
C'est une province qui ne va pas très bien, des déficits importants, qui a été pratiquement sauvé d'une faillite technique par le fédéral, justement, qui a injecté de l'argent parce que ça n'avait plus aucun sens. Donc, c'est de l'argent dont ils ont besoin.
Donc, ça, c'est gagnant pour nous, par contre, leur côté financier oui. déficitaire.
Bien, l'autre élément, c'est à qui ils vont vendre leur énergie. Si ils ne vendent pas à nous, là, c'est un défi. Là.
Ouais,
que, à suivre, comme on dit.
Ouais, avant qu'on passe à notre dernier sujet du caucus, je veux juste lire un texto de Kim. Ce qui est plate avec la niaiserie de la chance, c'est que c'est tout ce qu'on va entendre d'ici au 2 novembre. Déjà qu'on n'entend pas beaucoup de projets de chaque parti pour la ville de Québec. Eh bien là, on s'assure que ça va être juste des pointes contre la chance ou même, je dirais, Kim, contre plein d'autres candidats également. Là, je regarde le fil Facebook de Bruno Marchand qui a mis sur sa page « Faut que les deux s'expliquent la chance, Ahmad ». Je te dirais qu'il y a des citoyens qui ne sont pas très polis envers l'ex-maire de Québec, là, le maire sortant, devrais-je dire. Alors, oui, c'est vrai, il va falloir passer un débat également d'idées, ce qu'on n'a pas eu là, depuis le début de cette campagne électorale-là. Antonine, coupe dans la fonction publique. François Legault voulait s'attaquer au système qui avait atteint sa limite. Mais là, coudonc, Frédéric Gay, sous-ministre à l'Environnement, d'après moi, il n'a pas reçu le mémo de François Legault parce que le 8 octobre dernier, devant 1000 fonctionnaires, il s'est plaint du fait qu'il doit abolir des postes au ministère de l'Environnement. Quand un de tes sous-ministres fait cette sortie publique-là devant les fonctionnaires, ça va pas bien, là.
Oui, c'est ça. C'est parce que c'est pas dans un petit meeting avec quatre personnes.
Non, non, ils sont mille, là.
En ce moment,
ils sont mille, puis ils disent « j'ai pas dormi des nuits de temps parce qu'il faut que je coupe des postes, puis ça n'a pas d'allure. » Puis c'est le premier ministre puis le nouveau ministre de l'Environnement qui me demande ça. Fait que regardez, c'est pas de ma faute, faut que je le fasse.
Oui, c'est pas très solidaire, comme on dit. Parce que là, il faut le dire, OK, des sous-ministres, c'est comme le point de jonction entre le politique et l'administratif.
Ouais.
Parce que les sous-ministres, c'est les patrons des ministères. Oui, c'est des fonctionnaires, mais ils sont nommés par le Conseil des ministres. Ils sont sur des sièges éjectables, en passant. Donc, eux, leur rôle est vraiment un peu mitoyen. C'est-à-dire qu'ils sont en charge de faire en sorte que l'appareil gouvernemental se met au service des priorités des gens qui ont été élus, OK, en gros. Donc, moi, qui ai travaillé dans le gouvernement pendant plusieurs années, je peux vous dire qu'un sous-ministre qui fait une affaire de même, ça fait grincer des dents énormément. Parce que d'habitude, ils sont censés quand même mobiliser les gens dans une certaine direction, celle du gouvernement élu. Et en même temps, ils se font le porte-voix de la fonction publique, puis des fois de la logique et de la rationalité dans les cabinets politiques. C'est comme un point de coordination. Mais d'aller dire ce qui a été rapporté, c'est un peu un manque de loyauté, on va dire ça.
Y es-tu sur un siège exécutable, Frédéric Gay, présentement?
Ben, c'est un fonctionnaire qui est apprécié, qui a été vu comme étant compétent dans les dernières années. Fait que, je ne peux pas vous dire là, si il est brûlé ou quoi que ce soit. Là, peut-être que les avantages de passent de loin les inconvénients de continuer de collaborer avec lui. Par contre, ça envoie un message. C'est que, tu sais, je regarde, là, le premier ministre a fait un grand discours d'ouverture, il a dit ses priorités, puis il y avait notamment l'efficacité gouvernementale. On veut couper des postes, on veut accélérer les choses, on veut être plus efficace, on veut enlever le gras. Mais en même temps, c'est quoi l'intérêt des fonctionnaires de se dépêcher de faire ça? Tu sais, tu dis, bon, moi, je travaille dans tel ministère, le gouvernement, il est dans la chenoute, là.
Oh, il sera pas réélu, la CAQ sera pas réélue, là.
Ils seront pas réélus, puis là, on me demande de couper dans mes équipes. Tu sais, honnêtement, oui, ils vont le faire, ils n'ont pas le choix.
Oh, oui.
C'est déjà commencé. On a vu des postes aussi qui ont été coupés dans des sociétés d'État, notamment la SAC. Il y a 800 postes à peu près là, qui ont été coupés cette année dans la fonction publique. C'est pas énorme, mais c'est commencé puis ils n'ont pas le choix. Mais tu sais, sur déployer les priorités gouvernementales, le niveau de motivation ne doit pas toujours être élevé. Je sais que c'est des personnes professionnelles au service des gens et de l'État, les fonctionnaires. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas qu'ils ne travaillent pas bien. Mais au niveau de la motivation, des fois, ça doit être un peu difficile quand on leur dit qu'on veut couper dans leurs équipes. Juste un rappel, la CAQ avait promis de réduire de 5 000 postes dans la fonction publique lors de l'élection de 2018.
En plein ça.
5 000 postes par attrition et par coupe. Et aussi, on voulait envoyer un 5 000 postes dans les régions du Québec. Là. Fait qu'on voulait sortir un peu les postes de fonctionnaires de Québec et les envoyer dans différentes régions. En fait, la taille de l'État depuis 2018, elle a augmenté. On parle d'à peu près 10 000 postes qui sont ajoutés finalement.
Fait qu'on n'a pas enlevé 10 000, on en a ajouté 10 000.
Exactement. Puis, tu sais, il y aurait des justifications, je ne passerai pas trop de temps là-dessus. Mais cela dit, là, cette année, avec la nouvelle présidente du Conseil du Trésor, le premier ministre veut vraiment donner un coup. Il en a parlé dans son allocution là, de discours d'ouverture ouais. après le remaniement. Mais le temps, tu sais, ils ont très peu de temps pour le faire. Donc, on va voir s'ils vont être capables d'atteindre leur objectif. Mais c'est sûr que le coulage là, d'affaires, là, puis les, tu sais, je regarde par exemple le journaliste de Radio-Canada, Thomas Gerbet. À tous les jours, il y a des nouvelles sur des sources dans certains ministères, puis notamment celui de l'environnement, là, où est-ce qu'il sort des informations qui lui ont été coulées là, par des sources de fonctionnaires. D'après moi, ça va continuer.
Oui, c'est ça, il va y avoir du coulage. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui ne sont pas contents. On parlera un petit peu plus tard, là, Antonine, avec Lambert Drainville, du fait là, que les deux syndicats principaux là, de la fonction publique, c'est-à-dire celui de la fonction parapublique du Québec et celui des professionnels et professionnels du gouvernement du Québec, considèrent que ça crée un climat de travail toxique. Mais là, à un moment donné, t'sais, des coupures, il y en a dans le privé, il y en a dans le public. J'ai de la misère un peu avec cet argumentaire-là.
Oui, je comprends. Puis, tu sais, c'est sûr que ça leur fera jamais plaisir. Fait qu'ils font leur travail. Si tu étais un syndicat de la fonction publique, tu n'applaudirais pas qu'il y ait des coupures. Puis c'est bien normal.
Non, c'est clair.
Ils jouent leur rôle.
Exactement, ils jouent leur rôle. Antonine Iaccarini, c'était le caucus Iaccarini du lundi au jeudi dans l'émission On en jase. Tu restes avec nous à distance de Montréal pour l'entièreté de l'émission. Et après la pause, on va avoir justement l'avocat spécialiste François-David Bernier qui va venir nous parler. On va boucler la boucle de cette situation respect citoyen qui a exploré les possibilités avec Leadership Québec pour que Sam Ahmad se retire de la campagne électorale, donc retire sa candidature à la mairie. On a fait le tour avec des journalistes, on a fait le tour avec le principal intéressé, Stéphane Lachance, on a fait le tour avec des analystes, mais là, pour la première fois sur les ondes de Boulevard 102, on va avoir un avocat, donc ça va bien boucler la boucle sur cette situation-là. Tu vas être à l'écoute, Antonine?
Yes!
Cool! Alors, courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1 et on revient avec l'avocat spécialiste François-David Bernier.